Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur cette libre antenne qui est un peu votre maison, un peu beaucoup votre maison, chers amis, puisque vous le savez, c'est vous qui faites cette émission, c'est vous le contenu de cette émission, vos témoignages, vos mots, vos émotions, vos ressentis sur votre quotidien, c'est vous qui le faites chaque soir jusqu'à 1h du matin, et ce, 7 jours sur 7, sur Europe 1, qui depuis tellement d'années que nous ne les comptons plus, assure cette libre antenne pour vous. Et j'espère que vous êtes heureux et heureuse de nous retrouver. Pour nous appeler, vous le savez, il y a un nouveau numéro non taxé qui est le 01 80 20 39 21. Je répète, 01 80 20 39 21. Numéro non taxé qui est inclus dans vos forfaits. Et puis vous pouvez nous écrire toujours au 7 39 21 suivi du mot nuit. Écrit en lettres majuscules suivi d'un espace. Vous nous adressez vos mails à libreantenne@europe1.fr, libreantenne@europe1.fr, et puis toujours sur notre groupe Facebook, Olivier Delacroix, Yann Moix, la Libre Antenne et l'Antenne Libre, où vous pouvez adresser à chaque équipe, celle de la semaine comme celle du week-end, vos messages en privé. Vous êtes 18 341 membres sur cette page Facebook. Autant dire que vous êtes la communauté la plus importante d'Europe 1 à ce jour. Voilà, sans plus tarder, votre libre antenne du lundi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et avant toute chose, j'aimerais vraiment que nous pensions là, en ce moment précis, à ces trois jeunes gens. Ils s'appelaient Manon, Steven et Paul. Ils étaient âgés de 24 et 25 ans. C'était des policiers, hein, de jeunes volontaires enthousiastes qui sortaient à peine de l'école de police. Et ils sont morts ce matin dans l'exercice de leurs fonctions. Bien évidemment, nous pensons à leur famille, à leurs proches. Nous leur envoyons toutes nos pensées, toute notre affection. Je vous parle comme Raphaël vous en a parlé dans son journal, je vous parle de ces trois jeunes gens, car toute la journée, je pense que vous avez été nombreuses et nombreux à penser à ces trois jeunes gens qui avaient la vie devant eux et qui sont morts bêtement, par l'attitude d'un homme complètement irresponsable. Et on pense bien fort, en tout cas, à leurs proches et à leur famille. On accueille Laurence maintenant au 39-21. Bonsoir Laurence.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Et on pense bien évidemment, j'ai oublié de le rajouter, à tous les policiers qui ce soir sont sur les routes, dans les villes, partout, et aux gendarmes aussi, qui, je vous le rappelle et je le dis souvent dans cette émission, sont des rouages essentiels pour que notre société continue de fonctionner. S'il n'y a plus ces gens-là, comme les infirmières, comme les éducateurs et les éducatrices, comme les assistantes sociales, comme les médecins, hein, comme tous ces fonctionnaires qui agissent pour notre bien-être et notre sécurité, eh bien, ça sera compliqué. Donc, j'espère que vous avez été nombreuses et nombreux à penser à eux aujourd'hui et à continuer de penser à eux. Excusez-moi, Laurent, je n'avais pas fini, en fait.
Non, mais c'est normal. On a tous été touchés par cette histoire et moi particulièrement aussi.
C'est fou. Laurence, quel âge avez-vous ?
J'ai 46 ans.
46 ans, et vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de Marseille.
Ah ben, il s'en passe des vertes et des pas mûres à Marseille aussi, j'ai vu ça.
Pardon ? J'ai pas entendu.
Il s'en passe des vertes et des pas mûres à Marseille aussi.
Ah non, il faut pas commencer par ça.
C'est-à-dire que ce matin, l'actualité commençait par ça.
Oui, j'ai entendu. Mais ouais. Un peu comme d'habitude, en fait, on parle toujours de Marseille de cette façon-là.
Non, c'est Marseille.
C'est pas ce que j'aime en fait entendre de ma vie.
Non, et puis Marseille est une sublime ville avec un peuple marseillais superbe. Non, on ne parle pas tout le temps de Marseille comme ça. En tout cas, pas ici, je vous rassure.
Bon, c'est parfait alors.
Alors, qu'est-ce qui vous amène, Laurence ?
Alors, moi, je voulais évoquer en fait un petit peu le parcours hein, que j'ai pu avoir et puis peut-être échanger sur des choses qui vont vous évoquer peut-être de l'inspiration sur certaines parties. J'ai une histoire qui est assez personnelle sur ma reconversion professionnelle et on va échanger en fait, je pense, là-dessus ce soir.
Ah bah, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire, oui.
C'est moi qui fais l'introduction.
Bah oui.
Oui. Alors moi, je suis diététicienne nutritionniste sur Marseille.
Ouais.
J'ai été pendant 25 ans responsable marketing, 25 ans, 24. Et j'ai eu, pendant le Covid, en fait, j'ai été licenciée de l'entreprise dans laquelle j'étais et ça a été un choc émotionnel à plein de niveaux. Et mon histoire, justement, personnelle m'a conduite à complètement, en fait, changer mon parcours et à me passionner de nutrition, de sport et de bien-être. Et aujourd'hui, moi, je suis une obèse qui a été opérée. C'est ce qui fait en fait aussi en fait mon parcours professionnel en fait aujourd'hui.
Oui.
Même si aujourd'hui je suis plus en fait obèse hein, parce que j'ai été en fait opérée d'une sclise en 2014. Je suis en surpoids aujourd'hui, mais je suis toujours pour moi en fait qualifiée comme une obèse parce que l'obésité en fait pour moi c'est une maladie qu'on a et que on ne perd pas juste en perdant des kilos. On est aussi en fait
obèse
on est concerné par cette maladie. Oui, et obèse en fait aussi dans son corps parce que mine de rien, en fait, l'obésité me poursuivra en fait, et ça sera un combat pour moi en fait toute ma vie. J'ai ces cellules graisseuses qui ont été créées en fait pendant de nombreuses années.
Oui.
J'ai beau avoir maigri, je suis en surpoids en fait, hein, je ne serai jamais mince en fait, je pense aussi. Mais malgré tout, en fait, le moindre petit écart en fait peut me faire basculer vers cette reprise de poids que je reprends de temps en temps. Et je me rappelle en fait qu'il faut quand même toujours en fait me concentrer sur une. Il faut que je me concentre en fait sur ma vision en fait de l'alimentation tout le temps et me reconcentrer là-dessus tout le temps. Et j'ai été sauvée par une chose parce que on sait que l'opération aujourd'hui elle a plein de vertus mais en fait elle a également en fait beaucoup d'échecs. Il y a une chose qui m'a sauvée, c'est le sport, mais pas le sport compétition hein, parce que si vous regardez un petit peu ce que je fais sur les réseaux, je suis pas du tout en fait dans la compétition. Je suis une ultra débutante et je resterai débutante toute ma vie. Mais le sport, en fait, m'a complètement en fait chamboulé ma vie. Et le sport santé, en fait, on pourrait dire, c'est ce qui anime en fait mon quotidien et j'en parle en fait quasi comme une obsession. Et j'en parle en fait à ma communauté, en fait, que je me suis créée en fait depuis maintenant 9 ans. J'ai été opérée il y a 9 ans et j'anime en fait au quotidien en fait ce discours de prévention en disant si vous êtes parti en fait parce que vous êtes parti pour vous faire opérer ou si vous avez des soucis de santé. Prenez en compte en fait que le sport sera votre allié. Alors au début on comprend pas en fait forcément, mais petit à petit les gens comprennent pourquoi je dis ça. Parce que quand on se fait opérer de son estomac mais pas de son cerveau.
Oui.
Et on a besoin en fait d'un appui. Et le sport c'est un vrai en fait une vraie aide au quotidien.
Mais vous dites que vous étiez obèse dans votre tête, mais que vous aviez ce problème dans le corps, mais dans la tête aussi. Est-ce à dire que ces cellules graisseuses que vous avez produites, m'avez-vous dit? Vous les avez produits avec de la malbouffe ou avec quoi?
Oui, avec de la malbouffe, avec beaucoup de quantité. Moi, je suis une personne qui mange quand elle est bien et qui mange quand elle n'est pas bien. Je mangeais, parce qu'aujourd'hui, j'ai changé quand même complètement ce rapport à l'alimentation. Je suis issue d'une famille en fait, judéo-chrétienne, en fait, avec une partie italienne, une partie pied noir, où tout dans la convivialité, tout dans les excès. Quand on n'est pas bien, en fait, on mange. Et quand on est bien, on fait la fête et on mange. Et j'ai été éduquée là-dedans. Donc sans pour autant en fait avoir en fait de nostalgie sur cette période, je sais que c'était pas la bonne voie. Et aujourd'hui j'ai toute mon enfance en fait a été là-dessus quoi.
D'accord.
Donc oui c'est de la malbouffe et oui c'est des erreurs en fait de choix que j'ai pu avoir en fait pendant longtemps.
D'accord. Est-ce que ces choix là étaient dus à quelque chose de précis? On parle souvent de la bouche, hein, de ce qu'on introduit dans notre bouche et pour nous remplir, pour nous rassurer. Est-ce que ça venait de quelque chose de précis?
Alors oui, quand on étudie, parce que heureusement j'ai eu un parcours en fait, grâce à mon opération, j'ai eu un parcours psychologique pour essayer de comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas la source de comment vous êtes arrivé en fait à cette obésité qui est morbide, le mot morbide il a tout son sens, hein, on est proche de la mort. Si vous ne comprenez pas d'où vient en fait cette alimentation, comment elle est arrivée comme ça, vous pouvez pas vous aider par la suite, même par quelque chose de mécanique. Donc oui, c'était pas que je mangeais quand j'étais bien, quand j'étais pas bien. Il y avait forcément un choc émotionnel qui était arrivé en fait plus tôt dans mon enfance, qui fait que tout est parti un petit peu en fait en vibrine. Et après, en fait, on gère ses émotions de cette façon-là. Donc oui, on peut dire en fait qu'il y a toujours en fait une source à tout ça. Quoi.
D'accord. Donc ça a commencé quand vous étiez enfant.
Oui, j'ai toujours eu. Alors, ça a commencé en fait très petite, hein, où on. Oui, ça a commencé en fait. J'avais 4 ans. En fait, j'étais déjà en surcharge pondérale et ça s'est amplifié en fait toute mon adolescence jusqu'à l'âge adulte.
Ok. Bon, vous êtes là ce soir pour nous parler cette transformation, hein, même si vous dites que vous serez obèse toute votre vie. Vous nous direz ce que vous entendez par là, parce que vous m'avez dit avoir subi une opération. Donc, laquelle exactement ?
C'est une sleeve, c'est une opération de l'estomac qui vous coupe en fait de 80% la taille de votre estomac.
80%, d'accord.
Ouais. Donc c'est-à-dire que pendant à peu près 18 mois, vous mangez l'équivalent en fait d'un pot de yaourt. Donc forcément, vous maigrissez. Alors le chirurgien m'avait dit une chose qui était assez importante. En fait, il m'avait dit, vous savez, 96% des régimes ne fonctionnent pas. Donc il va falloir faire quelque chose parce que vous n'allez pas attaquer un énième régime. Vous avez tout le temps. Aujourd'hui, vous avez 38 ans. Il va falloir faire quelque chose. Il m'a un peu bousculée parce que j'étais pas encore consciente en fait de ce que ça voulait dire obésité morbide. Et puis j'avais pas conscience en fait de qu'il fallait agir. Et donc il m'a dit ça. Il m'a dit donc les régimes ne fonctionnent pas. Et puis en fait, avec le recul, parce que maintenant ça fait 9 ans que j'ai été opérée, je me dis mais. Et qu'est-ce que j'ai fait, en fait, finalement, en faisant une sleeve, on vous coupe 80% de votre estomac, mais vous faites un régime drastique. Vous faites c'est un régime plus que restrictif. On vous coupe 80% de l'estomac. On vous coupe aussi, en fait, une hormone qui s'appelle la gréline, qui vous empêche, en fait, de manger, enfin, qui vous empêche d'avoir faim aussi. Donc, vous ne sentez plus, en fait, la sensation de faim.
Oui, oui, oui.
Moi, à l'époque, mon mari m'appelait à midi pour me dire, Laurence, ça serait bien que tu manges, t'as pas mangé, en fait, donc mange. J'avais plus de notion. J'étais complètement déboussolée, je ne savais plus quand est-ce qu'il fallait manger, pas manger. Et je mangeais, comme je vous ai dit, pendant quasi 18 mois, l'équivalent d'un pot de yaourt en taille. Hein. Je veux dire, tout aliment confondu, ça faisait la taille d'un pot de yaourt, ce que vous mangez.
Donc pendant 18 mois, quand on mange l'équivalent d'un pot de yaourt, justement, comment ça opère sur le corps ?
C'est très très compliqué, c'est-à-dire que vous ressentez une extrême fatigue générale, c'est-à-dire que c'est bien pire que les deux accouchements en fait que j'ai pu avoir en termes de fatigue. Vous perdez vos cheveux parce qu'en fait vous manquez, vous êtes en carence de beaucoup de choses. Donc heureusement que j'étais extrêmement bien suivie par une équipe médicale qui me faisait des prises de sang régulières et que j'avais en fait une supplémentation en fait en vitamines pour éviter d'avoir trop de carences. Qu'est-ce que ça veut dire sur le corps ? Ça veut dire aussi que le corps en fait ben il se vide. Donc vous avez effectivement un corps en fait qui mincit, mais vous avez aussi votre peau qui tombe. Donc j'ai dû quelques temps après, au moins 6 ans après, j'ai fait une opération qui s'appelle le body lift pour s'enlever en fait toute la peau qui pendait au niveau du ventre.
Oui.
Le chirurgien m'avait dit il y a plus de graisse en fait. Par contre il y a de la peau, donc ça tombe en fait sur le pubis, c'est moche. Mm-hmm. Mais mis à part que c'est moche, parce que moi le côté moche c'est pas grave en fait en soi pour moi. C'était aussi handicapant en fait, même quand je courais justement, parce que j'étais en fait beaucoup dans le sport, ça me faisait mal en fait d'avoir en fait cette peau qui pendait dans le ventre, là, enfin au niveau du pubis quoi. Et donc j'ai fait cette opération en fait en 2021, donc 6 ans après en fait l'opération. Donc c'est ça ce que ça veut dire en fait, c'est ça qu'il faut aussi peut-être dire aux personnes qui vont se faire opérer, que c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est une opération qui est violente en fait quand même, parce que vous perdez énormément de poids quand vous mangez l'équivalent peut-être, je sais pas, j'avais une évaluation peut-être à 3500 calories en fait par jour, là j'étais tombée peut-être à 500 calories dans la journée. Donc c'est violent, donc vous perdez en fait en 2 ans, j'avais perdu l'équivalent de 50 kilos.
50 voilà. Kilos, d'accord.
Ouais.
Donc 50
j'en ai
kilos.
Perdu 10 de plus en fait, dans la troisième année.
Donc 60.
Que j'ai repris en fait, c'est-à-dire que là je suis toujours à 50 kilos en fait de perte par rapport à.
Bah écoutez, c'est quand même. Mais au départ, vous pesiez combien ?
Alors ça c'est quelque chose en fait qui ça fait partie. Alors je communique sur beaucoup de choses depuis 9 ans, mais vraiment si vous devez me suivre sur les réseaux, c'est vraiment comme Martine à la plage. Je fais tout, je suis dans le détail de énormément de choses.
Oui.
Il y a une chose que j'ai jamais communiquée depuis le début, c'est mon poids de départ, comme si c'était le seul petit jardin secret que j'avais en fait depuis le départ. Donc je parle de perte de poids, de centimètres, de ce que vous voulez, mais j'ai jamais communiqué sur mon. C'est un peu ridicule hein, quand on fait en fait, l'histoire, mais voilà, ça fait partie de mon jardin secret. Mais c'est,
donc vous ne communiquez pas aujourd'hui combien vous pesez ?
Voilà, exactement.
D'accord. Bon, je n'irai pas vous chercher là-dessus parce que c'est votre petit jardin secret, comme vous dites.
Je ne sais pas, c'est un peu ridicule.
Écoutez, ça c'est à vous de voir, mais 60 kilos en moins quand même. Vous dites être toujours obèse ?
Aujourd'hui, en fait, en termes de valeur, on va dire, médicale, en fait, oui. Je suis en surpoids. Quand je dis, en fait, que je suis toujours obèse, c'est qu'aujourd'hui, les cellules graisseuses que j'avais avec ces 50 kilos, 60 kilos de plus, elles sont toujours là. Elles demandent qu'une chose, en fait, c'est être remplies. Oui. Donc, si jamais je devais lâcher le moindre truc, c'est ce qui s'est passé quand je me suis fait opérer, que j'ai été, en fait, invalidée par, justement, le fait de faire moins de sport. Bam, je me suis repris 10 kilos en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas une stabilité en fait saine dans tout ça. C'est-à-dire que si je m'arrête en fait aussi, je sais que rapidement je peux reprendre du poids. Donc oui, dans ma tête, et c'est ce que je dis en fait aussi pour peut-être pour me protéger ou pour dire en fait aussi que je suis toujours en fait une personne potentiellement avec cette maladie qui est une maladie chronique qui est l'obésité. Je suis juste une obèse qui a été opérée.
D'accord.
Donc sauvée de la partie santé. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la nutrition, au sport, au bien-être. Et j'en ai voulu faire, en fait, mon métier. Je suis passée de responsable marketing à diététicienne. J'ai repris mes études à 44 ans. Et je me suis remise, en fait, à travailler toute seule, en fait, de la physiologie, de la biochimie, des choses que je ne comprenais pas du tout, en fait, parce que je viens du monde du commerce, moi, au départ, pour me dire, mais j'ai envie d'aider des personnes, en fait, qui étaient dans ma situation, pour peut-être en fait éviter qu'ils aillent en fait dans le même sens que moi, et éviter les régimes qui étaient trop drastiques, les accompagner peut-être dans l'opération, mais en leur disant aussi la vérité, tout ce que j'ai peut-être pas entendu en fait aussi, et les accompagner après l'opération. Parce que là, les personnes que j'ai beaucoup en fait aujourd'hui, c'est des personnes aussi qui arrivent après l'opération et qui ont pris tout leur poids. Parce que ça, on le dit pas beaucoup, mais dans l'hôpital où j'ai été suivie pendant quelques années, 90% en fait des personnes ont repris tout leur poids. Et c'est énorme. Quand vous
90
vous êtes
personnes.
Comme ça.
Ah oui.
C'est beaucoup. 90% en fait aujourd'hui, ils font plus de sleeves dans l'hôpital où j'ai été suivie. Ils ne font plus que des bypass. Donc c'est une autre typologie en fait d'opération de chirurgie bariatrique parce que ils ont remarqué qu'il y avait trop, ce qu'ils appellent des échecs en fait après cette opération qui est quand même en fait très dangereuse en fait aussi. Hein. C'est pas du tout anodin de se faire opérer de cette chirurgie.
Mm-hmm. Donc, voilà. Ok. Donc voilà, on a fait un peu un bilan de ce que vous avez fait. Et maintenant, aujourd'hui, vous parlez du sport, donc, comme allié. En quoi, en fait, il est votre allié? Et comment le pratiquez-vous? Que pratiquez-vous? Et à quelle cadence?
Alors, moi, j'ai commencé par la marche. Parce qu'en fait, quand vous avez l'équivalent en fait, d'une machine à laver en fait, sur le dos, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, il a fallu que... Parce qu'on m'a dit de commencer le sport, même quand j'étais au début de l'opération.
Oui.
Donc, j'ai commencé par... Moi, pour moi, la marche, quand on dit que je fais de la marche, je ne fais pas de sport, si. La marche, en fait, selon la cadence que vous pouvez avoir, en fait, bien évidemment, en fait, c'est un sport. Il ne faut pas le négliger, en fait, comme
un
sport de base.
Je fais de la marche avec de la pente, et je peux vous dire que c'est très efficace. D'ailleurs, bon nombre de sportifs vous disent que c'est très bon, même de faire de la marche, alors avec de l'effort. Hein, bien, quand je dis la pente, il faut mettre 8-10 de pente pour marcher. C'est très bon pour le cardio et c'est très bon même pour les articulations par rapport au fait de courir, parce que vous ne vous abîmez pas les articulations, ni le dos, ni le bas du dos.
Exactement.
Puisque vous vous tassez. Donc, mais c'est très efficace, hein, la marche. Par contre, bon,
il
faut y aller, hein, faut se faire entre 5 et 10 bornes. Comme ça, et je peux vous dire que, enfin, pas à vous, hein, puisque vous savez ce que c'est, Laurence, mais à celles et ceux qui nous écoutent, la marche sur tapis comme ça, la marche intensive, c'est très très bon. Vous me dites, hein, Laurence, si je dis une bêtise.
Ah, mais je confirme, et moi j'encourage en fait toutes les personnes, et c'est ce que je dis, hein, mais ça fait partie quasi de la moitié de mes consultations, je dis, mais ne négligez pas la marche, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire sans beaucoup de contraintes logistiques. Quand on est en ville, là, comme à Marseille, à Paris, enfin, on a toujours cette contrainte d'aller à la salle, ou mettre des baskets, enfin, mais il faut quand même des baskets, il faut à la limite juste avoir ses baskets dans son sac, et c'est au moins la partie la plus facile en fait à démarrer quand on veut en fait faire quelque chose, et même quand on est en fait à un niveau assez haut, c'est vraiment en fait, c'est quasi pour moi en fait méditatif de faire de la marche. Et alors j'arrive pas à faire justement en fait de la méditation, on m'a conseillé souvent pour calmer justement en fait certaines ardeurs. Enfin, je suis assez en fait nerveuse, et en fait la méditation ne marche pas sur moi. Par contre, la marche, ça me calme en fait, alors que je suis dans du cardio, je sue, et au contraire, je reviens en fait d'une séance de marche, je suis apaisée. Donc j'incite en fait vraiment tout le monde à faire de la marche. Donc j'ai démarré par ça.
Oui.
Et après, j'avais ce côté-là de gamine aussi qui n'avait jamais eu la possibilité de faire du sport un peu comme tout le monde. Et je voulais être un peu comme les autres. Et j'avais, je me disais, mais c'est pas possible, je pourrais jamais participer à une course parce que je suis pas comme les autres, je rentre même pas dans le t-shirt en fait pour faire une course. Et ouais, donc c'est des choses qui sont anodines pour une personne lambda, mais moi c'était carrément impensable de penser à faire une course. Et j'ai entendu en fait dans des dans les médias de ma ville en fait qu'il y avait une course de 5 km qui s'organisait. Je me disais, c'est impensable, comment tu vas faire ça? Et je me suis acharnée, mais vraiment comme une machine, en me disant, Laurence, tu vas y arriver, tu feras 500 mètres par 500 mètres, tu vas trottiner même 100 mètres pour voir ce que ça fait. J'avais mon cœur qui partait. C'est compliqué hein, quand on a vraiment 50 kilos de trop en fait, pour se mettre en fait, à faire un peu plus de cardio en fait, avec de la marche rapide. Et je me suis acharnée. Et au bout d'un an et demi, j'ai réussi en fait, à faire 5 kilomètres sans m'arrêter. Et alors, c'était invraisemblable la tête que je pouvais avoir. Mais je me suis dit, bon, ben, j'y suis arrivée, je m'inscris. Et c'est comme ça qu'a démarré un peu l'euphorie et l'enchaînement de milliers de courses. C'est-à-dire que toutes les courses qui étaient dans la région, je prenais tous les stars qui étaient possibles, en fait, dans la région, j'exagère, dans la Marseille et aux alentours. Hein, je ne suis jamais allée trop loin, en fait, autour de Marseille. Jusqu'au Marseille-Cassis, qui est une course, en fait, un peu mythique dans le sud de la France, qui est une course de 20 km sur les routes de la Ginette entre Marseille et la ville de Cassis. Et c'est une course, en fait, qui était pareille que quand j'étais petite, je regardais ça, mais... C'est comme s'il y avait des extraterrestres pour moi, en fait, qui étaient sur la... J'étais pas de ce monde-là. Et le fait de participer, ben, je m'incluais dans ce monde, en fait, de personnes normales. Donc, une fois que je m'étais prouvé tout ça, donc j'ai fait 4 fois Marseille-Cassis, j'ai fait toutes les courses, tout ça. Donc, ben voilà, ça faisait partie de mon quotidien. Et aujourd'hui, c'est plus une question, en fait, le sport et même la marche à pied, c'est complètement intégré à mon quotidien. Mes enfants, en fait, sont au courant. Si maman, en fait, elle sort à 19h, qu'elle revient à 20h, elle est au sport. Enfin, ils sont complètement dans ce mood-là parce que ils m'ont toujours vu... Ils m'ont plus vu en fait en jogging, en basket, que dans un habit traditionnel en fait pour aller travailler.
Alors aujourd'hui, vous êtes donc nutritionniste.
Je suis diététicienne nutritionniste.
Diététicienne nutritionniste. Vous avez passé un brevet pour ça, un diplôme?
Ouais, j'ai passé le BTS diététique, qui est le seul diplôme qui est reconnu pour pouvoir en fait diététicienne nutritionniste. Parce que j'avais cette volonté en fait d'être aussi dans le monde médical, parce que vous avez beaucoup de coachs en nutrition, vous pouvez trouver sur les réseaux, mais ça aujourd'hui pour être intégré dans une équipe médicale, ça n'a pas de valeur. Donc moi c'était très important que je puisse avoir ce diplôme. Donc j'ai sacrifié 2 ans de ma vie, pour pouvoir le faire, parce que je me suis dit j'aimerais bien être vraiment dans l'équipe médicale et vraiment encadrer des personnes en fait au niveau santé. Et je voulais allier mon mindset, la partie scientifique, la partie santé et mon vécu, en fait, un mix de tout, sans pour autant mélanger mon histoire, parce que mon histoire, c'est la mienne et je partage des milliers d'histoires, en fait, avec tous mes patients. Mais je segmente bien, parce qu'il faut quand même savoir aussi se protéger. Il y a vraiment beaucoup d'histoires, en fait, très, très lourdes, bien plus lourdes, en fait, que ce que j'ai vécu. Mais je leur fais bénéficier aussi de mon historique. Je leur fais gagner du temps, parce que j'ai pas eu de la chance, en fait, entre guillemets, de rencontrer toujours une équipe médicale hyper bienveillante. Donc, je suis là aussi, pour certaines personnes, d'ailleurs, qui n'ont pas de grands soucis de poids, pour leur dire... Ce n'est pas forcément aussi une bonne idée de vouloir absolument maigrir 15 kilos avant l'été. Je nuance beaucoup, en fait, et je dis souvent en fait, à mes patients, dès le départ, que je ne suis pas une magicienne. Et je suis là pour leur dire la vérité.
Alors, moi, par exemple, je vais vous poser, parce que les questions que je vais pouvoir vous poser, pour moi, peuvent intéresser aussi nos auditrices et nos auditeurs. Moi, j'aimerais bien perdre 15-20 kilos.
Oui.
Parce que je trouve que ça serait pas mal... avec nos métiers stressés, tout ça, l'âge qui arrive et tout, allez, bon, entre 10 et 15 kilos, on va dire plutôt. Qu'est-ce que vous me conseillerez de faire, alors sans vouloir les perdre avant l'été, ce qui serait totalement ridicule, j'ai entendu, mais vous dites quoi, par exemple, vous me dites quoi, moi?
Bah, déjà, alors j'aime bien en fait entendre des objectifs, parce que je leur demande en fait à mes patients, comme vous avez directement en fait parlé de l'objectif en fait de poids, et moi je vais vous demander en fait surtout en fait pour quelle en fait raison vous voulez partir là-dessus. Alors ça peut être justement parce que vous avez une sensation en fait même musculaire, vous ne sentez pas bien, les articulations sont pas bonnes.
Alors, pas vraiment, mais c'est plus, allez, on va dire plus quand je me regarde dans la glace. Parce que je ne me sens pas spécialement mal dans mon corps. Et je sais, quand je suis en surpoids, quand je me lève le matin, j'ai mal. J'ai eu mal aux articulations, mal aux genoux, mal, vous voyez, aux chevilles. Alors que là, plus jamais, ça m'arrive. Mais voilà, pour perdre 10-15 kilos, comment mon poids, en fait, je fais 1m82. Et on va dire que mon poids est autour de 80. 13 kilos. Là, j'en fais 103, 104. comment je peux perdre 10-12 kilos? Allez, 10-12 kilos.
Ben alors déjà, moi, aujourd'hui, je vais analyser comment vous mangez.
Et voilà.
Je vais partir de ce que vous faites.
Et voilà.
Aujourd'hui, en fait, si vous êtes en fait un épicurien, si vous dormez pas bien, il y a plein de choses que je vais regarder.
Alors, je dors très bien, mais comme vous le savez, Florian, d'ailleurs, Florian écoute avec attention parce qu'il est comme moi, il voudrait perdre un petit peu de poids aussi. Mais comme vous le savez, on se couche tard, nous, parce que quand on finit la radio, il est 1h, quand on sort d'Europe 1, il est 2h, quand on rentre à la maison, il est 2h15, 2h30. Le temps de redescendre. Non, parce que je les regarde parce que on a deux balaises, Florian et moi, puis on a deux crevettes, Laurent et Julia, qui sont secs comme des coups de trique, vous voyez.
Mais ils sont là depuis combien de temps, les deux secs?
Bah, les deux secs, ils sont là depuis le début, hein, pratiquement.
Ah, ils sont là depuis le début.
Oui, Julia nous a rejoint au bout de la première fin de la première année. Mais on sait que pour les personnes qui ont certains en bon point, se coucher tard, même si on dort nos 8-9 heures, c'est pas... Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende?
Ah, c'est pas du tout une légende. Alors, j'ai pas de personnes en fait, qui travaillent en radio dans mes patients. Par contre, j'ai énormément de personnes qui travaillent la nuit dans les hôpitaux.
Oui.
Et il y a une étude scientifique qui est sortie en fait, là-dessus, qui est... Enfin, c'est indéniable. Les personnes qui travaillent la nuit peuvent prendre en fait, entre 10 et 15% en fait, de leur poids, même sans rien changer du tout, en fait, à leur alimentation.
Mais pourquoi, à partir du moment où le corps s'habitue à s'endormir autour des 3-4 heures du matin, pourquoi on parle d'un sommeil qui devrait se faire avant minuit, par exemple? Je ne comprends pas.
Parce qu'il est moins réparateur et que la nuit, on produit en fait, deux hormones qui régulent en fait, la faim et la satiété, la gréline et la leptine. Et la nuit, en fait, vous produisez moins de mélatonine, qui produit en fait ces deux hormones, ce qui dérègle complètement votre organisme. Donc, bien sûr que ça peut se compenser, c'est juste qu'il faut changer complètement votre organisation de coucher, vos rituels de coucher, la lumière, en fait, et l'exposition que vous pouvez avoir, la lumière, en fait, en revenant du travail.
Oui.
Et il y a des choses, en fait, à changer dans votre quotidien pour réguler cette partie-là. Donc, dans votre cas à vous, si je devais, en fait, vous avoir comme patient, j'aurais pas du tout la même prise en charge que pour le même homme qui fait le même poids et la même taille.
Yvette, au 739-21, n'est pas nutritionniste, mais me soumet quelque chose de très réparateur. Elle me dit « Enlevez et séparez-vous de vos miroirs, Olivier ». Merci.
Mais non, parce qu'il faut savoir, s'aimer. Et j'aimerais bien justement quand vous vous regardez dans votre miroir, et c'est ce que je fais.
Mais ça va. C'est juste quand.
Ça va.
Bah, je vais vous dire. Non, mais je pense qu'on est plusieurs à se dire quand on se regarde que voilà que passer la cinquantaine, on perdrait bien un poil de bide. Vous voyez un peu. On s'épaissit de toute façon en vieillissant.
Oui.
Et je trouve qu'en plus on vieillit, plus c'est compliqué de perdre du poids.
Et c'est une fatalité en fait aussi, encore plus chez nous les femmes en fait que chez les hommes.
Et oui,
donc
oui, paraît-il.
Ça fait partie des inconvénients en fait qu'on peut avoir aussi avec la ménopause. Et donc oui, en fait, il y a des choses qui deviennent plus compliquées en fait en vieillissant. Donc pour revenir en fait à ce que je ferai en fait avec vous, j'analyserai aussi comment vous mangez. Et comment, en fait, est-ce qu'il y a des moments en fait, où vous mangez plus qu'à d'autres? Est-ce que le week-end, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle des week-ends, je ne sais pas comment vous travaillez exactement
ce sont des week-ends, ouais. Enfin, bon, je travaille aussi, je tourne, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, je travaille souvent le week-end. Mais,
est-ce qu'il y a des changements de rythme? Parce que souvent, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on m'explique, en fait, dans les aides-soignantes ou les infirmières, elles ont des changements complètement, en fait, de rythme, en fait, le week-end, quand elles reviennent dans leur rythme, on va dire, normal, avec les enfants et ça chamboule tout, parce que le corps, il ne comprend plus rien. Il dit, quand est-ce qu'il y a la nuit, le sommeil? En fait, on a été prévu pour dormir la nuit. Donc là, on chamboule tout. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité, hein, qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, il y a des choses à faire. C'est juste qu'il faut adapter carrément sa vie, en fait, au rythme en fait, qu'on s'est donné depuis X années.
Si vous voulez, c'est assez triste ce que ma diététicienne, qui est charmante en l'occurrence, et qui m'aide beaucoup, qui m'accompagne beaucoup. D'ailleurs, je la salue. Bon, elle doit dormir à cette heure-là, mais bon. Elle me dit, il faut manger des carottes, il faut manger des salades, il faut manger des légumes. C'est difficile.
Elle ne vous dit pas que ça, quand même.
Elle me dit de manger du poulet, du poisson. Elle sait que je ne mange pas de viande, donc du poisson.
Donc des légumineuses, en fait. Parce que, par exemple, j'ai pas mal de personnes aujourd'hui qui arrivent et on est de plus en plus flexitariens, c'est-à-dire on mange de moins en moins en fait, de viande. Et ne pas manger de viande en fait, et de poisson, alors c'est plus compliqué quand on a par rapport aux protéines, mais on y arrive en fait, en comblant en fait, avec des légumineuses, avec des oléagineux.
Qu'est-ce que vous appelez les légumineux? C'est quoi les légumineuses?
Les pois chiches, les pois chiches, haricots blancs, haricots rouges.
Ah ouais, ça c'est bon ça.
Les lentilles.
Ah oui.
Et donc ça c'est plein de protéines. Si jamais en fait aujourd'hui vous ne mangez plus de viande, vous en consommez moins. Je donne des équivalences parce que le soir d'ailleurs.
Ah, moi je mange pas de viande depuis l'âge de 23 ans. Donc ça fait un moment.
D'accord.
Ouais, ça fait un moment.
Et les poissons?
Le poisson. Alors je mange un peu de poisson. Mais plus ça va, moins j'en mange. Parce que c'est pareil, ça me dégoûte un peu. Donc,
Il y a une transition en fait vers la. Parce que le gros avantage quand même de la protéine, déjà en fait au niveau des muscles pour vous protéger. Un sportif en fait, si vous lui enlevez la protéine, il va se faire des blessures en fait assez rapidement. Vous en fait, si jamais vous voulez en fait partir sur une perte de poids, il va falloir quand même aussi axer sur la partie protéine pour la satiété, pour vous réguler en fait aussi de votre faim. Si vous mangez pas de protéines, c'est plus compliqué. Mais faut ça. Et les légumineuses, les oléagineux comme les amandes, les noix de cajou.
Ah non, mais ça j'adore ça. Mais il faut y aller mollo hein, sur les noix de cajou parce qu'on m'a dit que c'était.
Il faut y aller mollo. Mais ouais. si vous les prenez non salées et bien pris en fait pendant des collations juste avant en fait là que ça démarre, parce que votre journée là elle est scindée. Alors je connais pas exactement votre rythme, mais peut-être avant le démarrage d'une émission en fait se donner un regain d'énergie avec 20 grammes, c'est une poignée d'amandes. C'est tout bénef, hein. C'est plein de fibres et c'est très bien.
Mais les haricots rouges, vous voyez, les haricots rouges, les lentilles et tout ça, je les aime bien, mais un peu cuisinés, vous voyez. Donc, il y a des choses dans les magasins qui vous vendent dans des sachets et tout ça, enfin, il y a des plats comme ça.
Alors, oui, alors après, moi, c'est ce que j'amène justement les personnes dans la discussion, parce qu'on parle aussi des plats préparés. J'amène en fait les gens petit à petit à aller vers de la cuisine simple. J'explique justement au quotidien qu'on n'est pas pour être, on est là pas pour être des grands chefs, mais savoir assembler des choses. Alors, mon fils, il me dit, c'est cuisiner, assembler, oui, si tu veux. Mais en fait, savoir mettre en fait un oignon dans une casserole, faire étoler, rajouter les haricots rouges, vous êtes déjà dans la cuisine. Et je suis là pour amener les gens en fait à se détacher un petit peu du tout prêt, du tout fait, et justement, en fait, dans l'industrie.
Ah, mais les haricots rouges et tout ça, il faut les faire cuire et tout, c'est pas fastoche, vous voyez?
C'est une histoire de minutes. Après, c'est une histoire de choix, et c'est un peu ce que je dis, en fait, à chaque fois qu'on démarre un repas. Est-ce que vous vous posez la question, qu'est-ce qui est bien pour vous, en fait, dans votre assiette? Ou est-ce que vous mangez par automatisme?
Je mange un peu par automatisme, comme beaucoup de gens. Je mange parce qu'il faut manger, paraît-il. Je mange pas obligatoirement par faim. Le problème, c'est qu'au bout du compte, le soir, en fait, quand on rentre, on se pose des questions, hein, tous les quatre. Mais en tout cas, Florian et moi, on a faim à 2h du matin. Et c'est très compliqué de ne pas manger.
Mais pourquoi? Alors, il ne faut jamais ne pas manger quand on a faim.
Mais à 2h du matin, il paraît que ce n'est pas bon.
Mais non, mais votre rythme, en fait, il est complètement changé. Pourquoi vous ne mangerez pas, en fait? Vous venez de terminer une journée. Quand il est 2h du matin pour vous, chez moi, en fait, c'est comme si je faisais mon petit déjeuner.
Enfin,
l'équivalent de mon repas pour moi. Mais il faut prendre en fait le repas qui correspond en fait à un repas d'une personne lambda par rapport à sa journée. Donc, si vous avez faim, la mauvaise idée, c'est de pas manger, parce que quand on mange pas quand on a faim, on part en fait au lit avec un sommeil qui va pas être réparateur. Alors, il faut pas manger quelque chose de lourd, de frit, ça, d'accord, quand on part se coucher, parce qu'il faut toujours, en fait, un petit temps avant d'aller se coucher. C'est ce qu'on dit, en fait, qu'il faut au moins 2h avant d'aller se coucher.
Exactement.
Là, vous n'allez pas pouvoir attendre 2h. Ça, j'ai bien compris. Mais manger, en fait, au moins, justement, en fait, un peu, je sais pas si vous avez un taboulé, des choses assez simples et qui vont quand même, en fait, pouvoir vous rassasier en petite quantité pour au moins calmer la faim et partir, en fait, peut-être une demi-heure ou trois quarts d'heure après dormir. C'est plutôt une bonne idée, parce que vous n'allez pas dormir tout de suite quand vous allez rentrer de votre travail. Comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous êtes encore un peu excité, donc profitez peut-être de l'excitation pour manger, ça va se calmer tout seul et après vous irez dormir. Enfin, moi, c'est ce que je conseille en tout cas aux infirmières en fait que j'ai en consultation.
Non, mais voilà, je pense qu'il y a tout de toute façon, hein, c'est clair, hein, quand on veut maigrir, c'est évidemment ce que l'on met dans nos assiettes, hein, c'est le carburant, donc il faut mettre du bon carburant, donc il est certain que...
Et il faut en mettre en quantité nécessaire, c'est-à-dire que moi, je passe beaucoup de temps à refaire manger, c'est-à-dire que les personnes au début ne comprennent pas ma démarche, mais je refais manger des personnes qui ont tenté des régimes complètement absurdes, à 1000 calories, parce qu'il y a plein de régimes avec des poudres, avec plein de choses que j'ai tentées. L'avantage, c'est que je les connais toutes, en fait. Je connais tous ces régimes-là qui m'ont fait perdre du poids et reprendre. J'ai connu tous les systèmes de régime yo-yo. Donc, moi,
Ça ne marche pas. Vous avez raison. Ça ne marche pas. Il faut apprendre à mettre des choses bonnes. Il faut apprendre à manger. Vous avez raison. Et ça ne passe que par là. Le sport, j'ai un pote qui fait très attention à sa bouffe, mais qui fait beaucoup de sport. Il me dit, le sport, Olive, c'est 5 à 7% de ma ligne. Le reste, c'est ce que je mange.
Mais je suis d'accord. Par contre,
vous êtes d'accord ?
Alors, c'est dans, je suis d'accord en fait dans le principe de la, si on est dans cette perte de poids. Par contre, pour moi, le sport, ça reste 50% de la réussite à moyen terme et à long terme.
Ah oui,
parce que 50%. Le sport va être. Oui, mais dans le, pas dans l'assiette. C'est-à-dire que c'est pas dans la perte de poids. Je fais jamais et j'ai jamais fait de sport pour maigrir. Quand je maigrissais, en fait, comme une folle, là, au début de mes 18 mois, là, c'était pas le sport qui me faisait maigrir, c'est parce que je mangeais moins.
Ah oui.
Et en fait, le sport m'a permis, en fait, d'augmenter mon métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que vous consommez au repos sans rien faire. Et moi, aujourd'hui, je consomme 400 calories de plus au repos qu'une personne de la même taille et du même poids que moi.
Parce que vous faites du sport combien de fois par semaine, alors ?
En fait, je fais du sport tous les jours, sauf, on va dire une fois dans la semaine. En fait, je vais pas faire du sport avec une certaine intensité, je vais plutôt me reposer. Mais même quand je pars marcher une heure, pour moi, je l'intègre dans mon sport.
Ouais,
je suis partie marcher une heure de marche nordique dans mes calanques, c'est du sport. Donc ça, je le fais tous les jours. Tous les jours, j'ai au moins 10 000 pas par jour. Et j'ai développé ma masse musculaire, qui fait que même en étant en surpoids, je n'ai pas un ratio qui est mauvais pour ma santé. Mon métabolisme a un INC au-dessus de 25, mais il est peut-être meilleur qu'une personne qui est en IMC en fait à 22,
oui,
et qui n'a pas développé sa masse musculaire. Et il ne faut pas voir le poids comme une finalité. Peut-être que si demain on se voyait, je vous dirais en fait que vous avez peut-être une très bonne composition corporelle en fait. Avec mon impédance match, je pourrais voir que vous avez peut-être assez de muscles parce que vous marchez au quotidien, parce que je ne sais pas, en fait, il y a plein de choses qui peuvent faire en fait que vous avez peut-être un périmètre abdominal qui est normal. Je vérifierai d'autres marqueurs que le poids. Le poids n'est pas tout en fait pour moi.
Non, j'entends. Il y a l'indice, quoi ? Dites-moi comment ça s'appelle ?
De masse corporelle.
L'indice de masse corporelle, ouais.
Voilà. Et l'IMC, en fait, en dessous de 27, quand on est, en fait, par exemple, le IMC normal, en fait, on dit que c'est entre 18 et 22, 18 et 25, pardon. Sauf que, on peut aller, en fait, même jusqu'à 27, parce que jusqu'à 27, on développe moins de maladies, en fait, cardiovasculaires. Donc une personne qui n'est pas en fait un IMC normal, c'est-à-dire au-dessus de 25, elle peut très bien en fait être en bonne santé. Il n'y a pas de, faut pas non plus s'affoler. Quel que soit l'IMC, faut vraiment voir le contexte général. Et c'est ce que j'aime voir dans cette première consultation, c'est vraiment le contexte général de la personne.
Et l'eau, Laurence, parlez-nous de l'eau.
Ah, l'eau.
L'eau, ah là là, c'est bon.
L'eau. Alors
l'eau avec
ça,
des
c'est
bulles, pas de bulles, un petit peu parfumée.
Ça fait partie de mon cercle vertueux, l'eau, justement.
Oui.
J'en parle tout le temps. Je saoule toutes les personnes. Ça fait partie des objectifs que je mets à, sans rire, à au moins 7 personnes sur 10, parce qu'on a un gros problème. On pense qu'il faut boire uniquement quand on a soif. C'est pas vrai. On doit boire, même surtout quand on n'a pas soif, parce que si on boit quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc il faut boire tout au long de la journée, selon en fait votre vous n'aurez pas les mêmes besoins hydriques en fait qu'une femme, en fait une personne qui est plus petite. Mais vous m'avez dit que vous faisiez 1m83.
82.
C'est ça. Oui, donc vous êtes autour de aujourd'hui vous devez boire entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Ouais. Si vous prenez en fait assez de légumes en fait, parce que dans les légumes il y a aussi en fait pas mal d'eau. Donc si vous êtes en fait bien nourri au niveau des légumes et que vous buvez 1,5 litre en fait d'eau, c'est fabuleux. Sauf que c'est pas le cas de la plupart de mes patients qui c'est vraiment une catastrophe en fait. L'eau, en fait, j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils boivent un voire deux verres en fait dans la journée.
Eh oui, je veux bien vous croire.
Ouais. Et ouais, c'est compliqué. Alors par contre, en fait, les verres d'apéro, là, en fait, je les compte en fait beaucoup plus facilement. Et ça, c'est aussi plus compliqué.
Ah non,
on ne remplace pas l'eau par un verre d'apéro.
Et non, mais pas d'alcool du tout. Mais par contre, voilà, le sucre. Le sucre, souvent, vous devez voir qu'il y a des gens qui grignotent pas mal.
Oui, alors c'est pareil. Je fais la distinction entre le grignotage et la collation. C'est-à-dire que le grignotage, ça va être, il est 18h, j'arrive à la maison, je me prends un paquet de chips. Ça peut être du grignotage. Et encore, on verra bien ce qui s'est passé avant, en fait, dans la journée pour savoir si c'est vraiment du grignotage. Ça peut être juste, elle n'a peut-être pas assez en fait, mangé en fait, toute la journée.
Oui.
Votre corps,
un petit
en fait,
creux.
Il vous réclame quelque chose.
Mm-hmm.
Un petit creux, je prends n'importe quoi. Mais on peut faire en fait, aussi des collations. Et c'est pas, on appelle ça souvent, en fait, il y a des personnes qui me disent, moi j'ai une compulsion, j'ai une addiction au sucre. Je reformule, en fait. Et le fait de reformuler, je redonne un petit peu de, comment vous expliquer, un peu de sérénité dans les rapports qu'on peut avoir avec l'alimentation. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui arrivent qui me disent « Mais moi, je suis une addict au sucre, il faut m'enlever cette addiction, c'est une catastrophe. » Et en fait, je redescends un petit peu la pression et je dis « C'est pas une addiction. Vous ne mangez pas en fait assez avant. » Ce qui fait en fait que votre corps vous réclame en fait des glucides et pas les bons. Donc, il vous réclame des glucides que vous n'avez pas pris dans la journée. Donc mangez et vous verrez si en fait après vous avez autant de compulsions quand vous mangez en fait un peu plus. C'est pour ça que je refais manger en fait pas mal de personnes qui disent oh c'est compliqué hein, tout ce que vous venez de demander de manger, mais effectivement je mange moins de mon paquet de M&M's en fait à 18h, c'est plus facile de m'en passer.
Alors Anne, Anne de Bretagne nous demande votre avis sur le jeûne séquentiel, s'il vous plaît.
Alors le jeûne intermittent, c'est-à-dire en fait de pas. Alors c'est pareil, le jeûne intermittent, comme l'énième régime, j'ai tenté. Bien sûr que ça marche parce qu'un jeûne intermittent vous enlevez en fait un repas. Alors ça donne, dans mon cas, ça m'a donné en fait un espèce de regain d'énergie parce que quand vous mangez pas le matin, vous passez cette période en fait où vous avez faim, qui après en fait ça passe et puis finalement vous arrivez à tenir jusqu'à midi, tout va bien. J'ai perdu, je pense que j'avais perdu 7 kilos en fait en 2-3 mois, je me suis dit c'est fabuleux. Et en fait, ça ne marche pas si vous faites ça pour perdre du poids. C'est fait en fait pour les personnes qui ont décidé pour toute leur vie de ne pas manger en fait le matin.
Alors expliquez ce qu'est le jeûne séquentiel, le jeûne intermittent pour celles et ceux qui ne savent pas, s'il vous plaît.
C'est le fait de faire une pause. C'est-à-dire si vous ne déjeunez pas en fait le matin, vous faites un jeûne intermittent, vous faites une pause en fait de 16 heures dans la journée, vous n'allez pas manger. Donc on peut le faire le midi, on peut le faire le matin, vous choisissez à quel moment vous allez faire votre pause et vous allez enlever un repas ou deux. Donc là, le jeûne, alors elle a appelé séquentiel, moi j'appelle ça le jeûne intermittent en fait 16-8, où vous ne, je veux pas dire de bêtises en fait, mais en tout cas vous ne mangez pas en fait pendant 16 heures, et donc vous prenez votre dernier repas en fait à 20 heures, et le prochain repas vous le reprenez à midi. Ça vous faites un jeûne intermittent quand vous êtes dans cette séquence-là en fait de repas. Et donc pour l'avoir tenté, à chaque fois qu'on me pose la question, pour les personnes en tout cas en fait qui sont concernées par de l'hyperphagie, par le fait de manger beaucoup, je leur pose la question, est-ce que vous êtes prête là aujourd'hui à me signer que vous n'allez plus manger en fait à vie le matin, ou est-ce que vous faites ça comme un programme? Parce que si c'est un programme, laissez tomber. Le jeûne intermittent, ça a des bons effets pour des personnes qui ont des soucis digestifs, parce que ça, comme je vous ai dit, ça fait en fait un espèce d'allègement. En fait, il y a des personnes qui n'avaient pas fait le matin, ceux qui n'ont pas faim le matin, on va pas les obliger en fait à manger. Ils mangeaient déjà pas en fait au départ, ils font déjà un jeûne intermittent. Mais ceux qui ont, comme moi, en fait, ce plaisir, en fait, à se faire les tartines le matin ou à se faire des œufs, moi, c'est quelque chose de convivial, en fait, de manger. Donc, quand on m'a enlevé ça, un jour, je me suis dit, bah, attends, c'est bon, j'ai perdu 7 kilos, je reprends mon petit-déj. Ben, j'ai repris mes 7 kilos. Donc, non, c'est pas une. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de l'objectif.
D'accord.
Pour perdre du poids, mauvaise idée.
D'accord. Bon, très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter dans tous les conseils que vous donnez à celles et ceux qui viennent vous voir? Je crois savoir que votre mari était tennisman et qu'il est marathonien maintenant.
Ah oui, il a fait trois fois en fait, il a fait deux fois le marathon de Paris, donc on s'est déplacé plus loin en fait que Marseille pour pouvoir en fait faire ce marathon. Il a fait la première fois le marathon de Dijon et après deux fois d'affilée le marathon de Paris. Lui au départ en fait, c'est quelqu'un qui quand il était plus jeune, en fait, il a pas du tout de soucis de poids et c'est juste qu'il avait un peu abandonné le sport et en fait en me voyant faire un peu ces challenges un peu un peu focus sur le sport, il s'est remis en fait à dire bah, pourquoi.
Vous
pas,
avez beaucoup de courage quand même. Parce que au début, il faut du courage pour se mettre au sport.
Il faut, je ne sais pas s'il faut du courage en fait, ou en tout cas, il faut une vision de ce qu'on ne veut plus.
Oui.
Et je me suis dit, là, je me suis fait quand même une mutilation du corps. C'est un peu ta dernière chance. Saisis-la, parce que ça serait quand même dommage en fait de ne pas avoir saisi cette chance. Donc je me suis mis comme ça au départ. Et aujourd'hui, c'est plus du tout du courage qu'il me faut. Quand on me dit, oh là là, quel courage de partir courir quand il fait pas beau. Enfin, il n'arrive pas souvent en fait qu'il fasse pas beau, mais quand on me voit partir,
pas beau,
là,
c'est un petit coup de mistral, c'est tout. Vous plaignez à la première voilà, premier coup de vent, ça, tout le monde se plaint à Marseille.
Oh. Vous voulez finir par ça, Sam?
Non,
mais là, on a eu une semaine en fait un peu de pluie. Pendant une semaine, tous les Marseillais ont parlé de la pluie. Nous, c'est notre histoire. Donc, vous voyez, en fait, donc effectivement, si je pars courir quand il y a trois gouttes, j'ai plein de messages qui me disent que je suis hyper courageuse. Ça me fait rire. Mm-hmm. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est pas du courage en fait. C'est là aujourd'hui, c'est plus du courage. J'ai été en fait dans la motivation et aujourd'hui, c'est mon plaisir de le faire. Donc, ne me dites pas bon courage. Moi, j'ai envie de leur dire, mais bon courage à vous aussi. Pourquoi bon courage? Je comprends pas trop. Et mais voilà, je continue à le faire parce que je me dis ça peut inspirer et ça a inspiré forcément en fait un petit peu. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ah ben en te voyant partir avec tes écouteurs, moi aussi je vais faire pareil. Moi ça m'a motivé beaucoup au départ et puis je me suis rendu compte que ça avait aussi aidé pas mal de personnes. En fait, ça a pu inspirer un peu, donc ça m'amuse de le faire et je continue de le faire.
Et donc vous faites combien de sports par semaine et à quelle cadence?
Ah ben je entre la marche en fait et la alors la course en fait j'ai arrêté en fait de faire de la course autant en fait que ce que je faisais il y a encore en fait 2 ans parce que j'ai eu cette opération en fait qui m'a causé en fait des soucis et j'ai eu très peur en fait de ne plus pouvoir faire. Quand on m'a dit oulala t'as des soucis en fait au niveau des articulations, t'as peut-être fait trop de sport. Là, j'étais en désespoir quand on m'a dit ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Tu es en train de me dire que potentiellement, je vais pouvoir, ça va devoir s'arrêter, ce que je fais là depuis des années. Donc, de moi-même, j'ai baissé la cadence et je m'étais dit un truc depuis le départ. Tu iras tout doucement, mais tu iras jusqu'au bout. Donc, j'ai toujours été très doucement, mais là, de faire la course, j'ai arrêté la course, j'ai fait de la marche dans les calanques. C'est quand même bien tonique hein, de faire de la marche dans les.
Puis c'est bien sympa.
Ça descend, c'est sympa. Et puis, en fait, et de temps en temps, en fait, je fais des fractionnés, c'est-à-dire je marche, je cours, et ça me permet, en fait, de ne pas. De pas prendre de risques. En même temps, j'en ai pas. On m'a pas redit que j'avais des soucis en fait au dos, mais on me l'a dit tellement une fois. Ça m'a fait tellement peur quand on m'a dit que potentiellement je pouvais un jour peut-être arrêter la course parce que j'avais trop usé peut-être en fait mes articulations à force de courir comme ça tous les jours. Je courais tous les jours à une période. Hein. Tous les jours, j'étais le matin en fait ici et même quand je travaillais en fait entre midi et deux, j'avais mes baskets, je courais entre midi et deux. Et j'ai abîmé un petit peu mon corps qui n'était pas habitué pendant 35 ans en fait à faire du sport. Et je l'ai un peu abîmé. Mais aujourd'hui, ben voilà, je continue à faire du sport en fait en salle, je fais du sport en fait dans la rue en marchant et voilà, et c'est tous les jours. Sauf qu'on va dire il y a peut-être un jour dans la semaine où j'en fais pas. Là, je suis en train de préparer le défi de Monte Cristo. Alors le tout petit défi. Hein,
c'est quoi le défi de Monte Cristo?
C'est dans la mer. Donc ce sont des courses en fait de 1 km jusqu'à 6 km, pour pas dire de bêtises. Moi, je fais le petit parce que c'est la première fois en fait que je vais nager en pleine mer pour faire en fait, ce défi. Et donc voilà, je me tente là-dedans. Je me dis, tiens, j'ai fait la terre, maintenant on va essayer la mer. Donc voilà, c'est le 4 juin et je vais me lancer en fait dans
Super.
Ce défi un peu fou.
Alors j'ai une question pour vous de la part d'un auditeur ou d'une auditrice qui veut que vous parliez des édulcorants, la sucralose par exemple. Est-ce souhaitable ou non? Et si oui, dans quel cas?
Alors, les édulcorants, je les ai complètement bannis. Alors, c'est pareil, je vous parlais que, je ne sais pas si je prends ma casquette diététicienne ou ma casquette, en fait, perso, je vais essayer de m'allonger un peu les deux.
C'est quoi les édulcorants, exactement?
Tout ce qui est, en fait, faux sucre, si on devait, en fait,
voilà.
Un petit peu
okay.
Banaliser.
Spartane, tout ça.
Voilà, de l'aspartame, toute cette partie-là. Moi, aujourd'hui, j'ai, juste avant, en fait, de me faire opérer quand j'avais ces 5 kilos de plus, je prenais 1,5 litre de Coca Light par jour.
Oui.
1,5 litre de Coca Light, en fait, avec plein d'aspartame.
Jus consommé aussi, ces quantités de Coca Zéro.
Ouais. C'est ce que vous consommez aujourd'hui?
Non, j'en consomme moins maintenant. Mais je pouvais avant consommer 1,5 litre, voire 2 litres de Coca Light, Coca Zéro. Voilà, sans problème.
Oui, voilà. Tout ce qui, en fait, on se dit, en fait, un peu par... Alors, moi, ce n'était pas de la bonne conscience. C'était aussi le goût. Je préférais... je ne sais pas. On
c'est pour ça qu'on le boit. C'est pour ça qu'on le boit.
Voilà.
C'est plutôt
donc,
agréable, frais, c'est plutôt bon.
Exactement.
En tout cas, moi j'aime bien.
Des altérants. Aujourd'hui, quand je vois en fait du Coca Light,
oui.
Même quand je vois du Coca tout court, hein, quand je vois la marque en fait Coca, c'est en face de moi et je suis très excessive. Hein, mais je préfère le dire avant parce que ça peut mal se prendre. Aujourd'hui, moi je le vois dans mon cas à moi comme si je voyais de l'héroïne. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai banni complètement parce que quand on se fait opérer, on m'avait dit que déjà les boissons gazeuses étaient bannies, donc ça, je l'avais bien intégré. Et il m'avait dit, attention, vous buvez aujourd'hui 1,5 litre de Coca. Je vous ai bien dit, les boissons gazeuses, c'est interdit, donc vous avez bien assimilé que le Coca, ça sera terminé, en fait, alors. Après. Donc je l'ai assimilé, mais alors, en dehors du fait, en fait, que c'était banni, en fait, après mon opération, c'est aussi ça qui m'a fait prendre, en fait, tout le poids que j'ai pris pendant ma période adulte. Quand j'étais en fait enfant, il n'y avait pas de Coca à la maison. J'ai commencé à prendre du Coca plutôt en fait à l'âge, on va dire, adulte, à partir de 20 ans, on va dire. Et il y a des études qui ont été prouvées que le fait de consommer des édulcorants ouvre l'appétit. Donc, ce n'est pas le Coca qui vous fait prendre en fait le poids. C'est la conséquence en fait de l'édulcorant. C'est un pouvoir sucrant en fait qui est énorme. Donc, vous vous habituez votre corps en fait à prendre du sucre. Mais a un pouvoir beaucoup plus sucrant que le sucre normal. Donc, quitte à prendre du Coca, il aurait fallu au départ que je prenne du Coca normal. Mais je préférais le Coca Light parce qu'il avait un pouvoir sucrant qui était plus important. Et ça m'a amené en fait à consommer de plus en plus de sucre. Et ce n'était pas embêtant pour moi de prendre 2000 feuilles ou de consommer des quantités astronomiques en fait de gâteaux par la
oui,
suite.
Oui.
Donc, c'est, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je préfère 10 fois qu'une personne me prenne en fait un jus d'orange, même si ce n'est pas idéal. qu'un Coca Light ou un Ice Tea en fait light. Tout ce qui est light est transformé, ça ne fait pas partie en tout cas des choses que je recommande au quotidien. Après, à modérer, c'est pareil, je n'interdis rien parce qu'une personne qui consomme du Coca Zéro, je ne vais pas lui dire tu buvais un litre, tu ne vas rien prendre demain. J'essaie de minimiser, de l'amener en fait à comprendre pourquoi en fait c'est pas bien de continuer à consommer en fait du Coca.
Très bien, merci beaucoup Laurent. Je rappelle que votre compte Instagram est Laurence diététicienne et que si vous voulez en savoir plus sur Laurence et sur son expérience, sur les conseils qu'elle peut vous donner, eh bien vous pouvez bien évidemment nous demander ses coordonnées ici en nous contactant sur Facebook ou aller directement sur son compte Instagram Laurence-diététicienne que nous mettrons bien évidemment sur la page Facebook de la Libre Antenne. Merci mille fois Laurence.
Merci beaucoup Olivier, c'est vraiment super en fait de m'avoir donné en fait la parole ce soir. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous. C'est très gentil.
D'accord. Eh ben, on donnera en tout cas voilà rendez-vous sur la page Facebook pour votre Instagram que si vous n'avez pas bien noté vous qui nous écoutez vous noterez sur notre page Facebook. Merci mille fois et bon vent
Merci.
À vous. Au revoir.
Bonne soirée. Au revoir.